Vous écoutez France Musique.
Léonard de Vinci a dit de la guerre qu'elle est la plus bestiale de toutes les bêtises.
14-18, petite musique d'une grande guerre. Aujourd'hui, 14-18, petite musique d'une grande guerre, raconte comment la musique syncopée débarque sur la vieille Europe, importée par divers orchestres militaires noirs, dont le célèbre 369e bataillon noir des Hellfighters, dirigé par James Reese Europe, une émission de Cynthia Dubois.
Je suis Noble Cicero, multi-instrumentiste, compositeur et chanteur. J'ai fait partie de l'orchestre du célèbre bataillon noir des Harlem Hellfighters et j'ai été l'ami de son chef d'orchestre, le compositeur et lieutenant James Reese Europe. Chaque fois que j'entends la Marseillaise, je pense à ce matin de mars où nous l'avons joué avant le départ de nos soldats pour les tranchées. Toute la population française était présente. Le général Gouraud fit un discours magnifique dans lequel il soulignait à combien il était heureux de compter nos garçons au sein de sa division et à quel point ils avaient restauré le moral de celle-ci. Ils étaient considérés comme des égaux.
Égaux. Comme ce mot a dû être doux au cœur des Harlem Hellfighters. Ces combattants de l'enfer ou hommes de bronze, surnom donné au 369e régiment d'infanterie de l'armée américaine pendant la Grande Guerre. Des hommes venus d'un pays où la ségrégation raciale avait remplacé l'esclavage dans les anciens États sudistes et où furent commis pendant la seule année 1917 près de 70 lynchages. Mais que le président Wilson avait pourtant entraîné dans la guerre, ô suprême ironie, au nom de la démocratie et de la lutte contre la barbarie. Des hommes pour qui cette guerre, à l'instar de la guerre de sécession, représentait de grands espoirs et marquait une étape dans leur combat pour l'égalité. Peut-être, après avoir combattu et payé une nouvelle fois l'impôt du sang, deviendraient-ils enfin des citoyens à part entière. Mais l'armée américaine n'en voulait pas. Moins bien équipés, cantonnés à des régiments de couleur, ils furent relégués à des travaux de manutention et de ravitaillement jusqu'à ce que l'armée française, en mal d'hommes, les accueille. Ils firent preuve d'un tel courage pendant leurs 6 mois sur le front que le régiment reçut la Croix de guerre française et que de nombreux soldats furent honorés de la Légion d'honneur.
Nous avons entamé le Stars and Stripes Forever. C'est ainsi qu'au son des trompettes et des tambours, le premier détachement de soldats noirs américains entama son pèlerinage vers les périls du No Man's Land. Et dans ce bataillon se trouvait le premier officier noir américain à commander dans ses tranchées, le lieutenant Jim Europe.
James Reese Europe, ou Europe, patronyme qui le prédestinait à son grand voyage outre-Atlantique. ce compositeur et chef d'orchestre, déjà célèbre sur la scène musicale new-yorkaise puis nationale, était né à Mobile ou Mobile en Alabama, du nom des Indiens mobiliens. Cadeau du sud au nord, Europe quitta bientôt Mobile avec sa famille pour Washington avant de monter à New York en 1904. Et je me plais à l'imaginer, sur le pont du navire qui le conduisait en France, songeant au commerce triangulaire et à ses ancêtres qui, de la côte des esclaves africaines, avaient traversé l'Atlantique dans l'autre sens et à fond de cale. Premier mouvement de Three Places in New England du compositeur américain Charles Ives avec l'Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Michael Tilson Thomas. Évocation de la guerre de sécession et du tout premier régiment noir formé par les unionistes, le 54e bataillon du Massachusetts. Musique faite d'allusions à des chants militaires et des chants d'esclaves, dont les premiers croquis remonte à 1904. Ives, qui avant Debussy dans son Gollywog's Cakewalk en 1908, s'était inspiré de la musique des Noirs de son pays, comme dans cet étonnant Ragtime Piece, composé vers 1902. C'était l'une des Ragtime Pieces de Charles Ives avec l'Orchestre de la Nouvelle-Angleterre sous la direction de James Sinclair. Revenons à l'orchestre des Harlem Hellfighters et à Jim Europe, à la fois musicien et combattant, qui fut victime d'une attaque au gaz et hospitalisé à Gisoucourt, où il écrivit « On Patrol in No Man's Land ». Cette chanson décrit parfaitement la tension de cette patrouille dans les tranchées, mais sur un ton léger, qui rend encore plus poignante sa conclusion, n'est-ce pas merveilleux une petite balade dans le No Man's Land.
What's the time? Nine, all in line. All right, boys, now take it slow. Are you ready? Eddie, a very good Eddie. Over the top, let's go. Quiet, riot, else to start a riot. Keep your proper distance, follow along. Cover, mother, and when you see me hover, obey my orders and you won't go wrong. There's a minute buffer, come in, look out. Hear that roar, there's one more. Stand fast, for there's a very light. Don't gasp, or you'll find you all right. Don't start the bumming with those hand grenades. There's a machine gun, the holy spade. Alert, gas, put on your mask. Adjust it correctly and hurry up fast. Drop, there's a rocket for the Bosch barrage. Down, hug the ground, close the can, don't stand. Creep and crawl, follow me, that's all. What do you hear? Nothing near, don't fear, all clear. That's the life of a stroller when you take a patrol. Out in no man's land, ain't it grand? Out in no man's land.
Avant d'élever sa baguette, le lieutenant Europe a épousté ses épaules pour s'assurer que son manteau militaire parfaitement ajusté soit à la hauteur de la situation. Quand la baguette a plongé et fait jaillir la pièce maîtresse de Memphis Blues, le chef d'orchestre et les musiciens ont tout oublié ce qui les entourait. Ils voyageaient dans d'autres sphères, dans leurs souvenirs du pays. Leurs épaules finirent par s'agiter au rythme des frappes syncopées. Des élégants officiers français tapant du pied, le public n'en pouvait plus, le germe du jazz le frappait. À travers toute la France, la même chose s'est reproduite. Même les prisonniers allemands oubliaient qu'ils étaient prisonniers, interrompaient leur travail et tapaient du pied au son de ces airs américains si enthousiasmants. J'ai été convaincu que la musique américaine deviendrait un jour la musique du monde.
Le fameux Memphis Blues, joué par l'orchestre des Hellfighters, sous la direction de James Rhys Europe. Noble Cecil ne croyait pas si bien dire en déclarant que cette musique deviendrait un jour la musique du monde. Grâce aux Hellfighters et aux autres orchestres militaires noirs, cette musique syncopée allait se répandre dans toute l'Europe et dans les boîtes à la mode des années folles. Comme Debussy et Satie, précurseur qu'il avait découverte à la faveur de l'exposition universelle de 1900, de nombreux compositeurs allaient s'en inspirer. We'll be right back. C'était le premier mouvement du concerto en sol de Maurice Ravel avec le pianiste Pascal Roger et l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. Selon Cecil, et je le cite, « James Europe rêvait d'un orchestre symphonique américain entièrement noir qui jouerait de la musique noire composée par des Noirs. » Et pour lui, les œuvres, comme dans les symphonies russes, témoigneraient de toutes les souffrances et de toutes les émotions d'un peuple opprimé. Hélas, James Rhys Europe fut assassiné avant que son rêve ne se réalise, le 9 mai 1919, à Boston, par un membre de son orchestre. Listen to the Lambs de l'Ontarien Robert Nathaniel Dett, un compositeur noir qui connaîtra la célébrité tant au Canada qu'aux États-Unis dès 1914, qui va étudier entre autres à Harvard dans les années 20, puis à l'école de Fontainebleau avec Nadia Boulanger dans les années 30. Nathaniel Dett, qui lui aussi rêvait d'une musique savante, authentiquement noire. Pour ce qui est du jazz, maintenant, on pense aux nombreux festivals de jazz au Canada et en particulier à Montréal aujourd'hui, mais au début du siècle dernier, la situation était tout autre. Peut-être, en tout cas chez les francophones, à cause de l'omniprésence de l'Église. La musicologue Marie-Thérèse Lefebvre a retrouvé quelques textes édifiants.
Gustave Comte, journal La Patrie, 20 novembre 1923. Ils étaient là une douzaine environ, authentiquement noirs, soufflant, grattant, raclant, tapant, faisant un vacarme infernal. Et ces démons tapageurs, qu'on eût dit moins civilisés que des zoulous cannibales, se balançaient le corps et se déhanchaient impudiquement. Mais ce n'était là que le commencement de l'enfer, car bientôt s'amena une forme vaguement humaine, lourde d'une demi-tonne, suintant l'huile de toutes ses graisses tombantes et débordantes, les yeux canailles, la lèvre vicieuse, chantant d'une voix avinée de vieille grue, des paroles dont on ne pouvait saisir le sens à cause du tapage ambiant. Jazz, tueur d'art, de musique, de beauté et d'amour, nous ne te maudirons jamais assez.
Notre aimable critique se trouvait peut-être dans une des boîtes de la petite Bourgogne, qui sait ? Quartier du sud-ouest de Montréal, qui doit son nom aux colons français nostalgiques. Jadis, plaque tournante de l'industrie ferroviaire canadienne, la petite Bourgogne accueillit une importante communauté noire anglophone et ouvrière faite de nombreux travailleurs du rail. Elle devint ainsi intimement liée à l'histoire du jazz à Montréal. Le pianiste Oscar Peterson a vu le jour dans la petite Bourgogne et, bien qu'il soit né en 1925, sa biographie fait fréquemment état des lourds préjugés auxquels il a dû faire face en tant que musicien noir. Le pianiste Oliver Jones, né lui aussi dans ce quartier, témoigne de ses jours révolus.
« c'était tellement différent. Je me souviens qu'après l'église, on avait les gens qui sortaient et disaient « maudit nègre ». C'était pas facile. C'était pas facile pour les Canadiens français non plus. S'il y avait trois hommes qui allaient pour un job, que ce soit un anglophone, un francophone, puis un noir, on savait que l'anglophone prendrait le job en premier. Ça a changé tranquillement. Je me souviens de la première fille noire qui a travaillé dans une banque. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu les pompiers noirs ni les policiers. Je me souviens, on allait dans les restaurants. On voyait les autres faire servir avant nous autres. Ils ne voulaient pas qu'on soit là, mais ils nous servaient pareil. Mais ça a changé beaucoup.
C'était Lights of Burgundy du pianiste montréalais Oliver Jones avec Oliver Jones et son ensemble. Je remercie en passant mes collègues Ralph Boncy et Claude Saussier d'avoir bien voulu me prêter leur voix.
C'était 14-18, Petite musique d'une grande guerre, une émission proposée aujourd'hui par Cynthia Dubois, en coproduction avec les radios francophones publiques, réalisée par Cynthia Dubois, Patrick Lérisset et Benjamin Vignal.